Radio Galère 88.4 de la bande FM marseillaise DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreux. Histoire d'une radio à contre-courant, quand Radio Provisoire, ancêtre de Radio Galère, fêtait les 15 ans de 1908 avec Jacques Sansin, Samy Lusua et Alain Crévin. Une émission enregistrée en mai 1983.
Et c'est avec fois, de l'histoire, donc l'histoire oui. De la radio. De radio
voilà, l'histoire de Radio Galère. Pas de Radio Galère, en fait, c'est de l'ancien de Radio Galère.
De Radio Provisoire.
Et en fait, un lien aussi avec mai 68. Mmh. Oui, parce que, en fait, cette émission-là, c'est une des plus vieilles cassettes que j'ai retrouvées, alors que j'ai numérisé. On va voir, bon, je pense que la qualité du son soit assez bien, parce que c'est quand même à partir du système de la cassette d'avant, qui a été monté, oui, pour faire le topo. C'était en mai 1983, donc il y a plus de 40 ans.
Oui, quand même. Alors,
certains animateurs de Radio Galère ne s'étaient pas encore. Précisons.
Ben nous, oui, ma femme.
Oui, nous, on est le troisième âge déjà. On est les vieux de la vieille, on est vieux galériens. Il sait que cette émission a été faite pour les 15 ans de 1968. On va entendre quatre personnes intervenir. On va d'abord entendre Jacques Sansin, qui était un des fondateurs de Radio Provisoire. Pas Radio Béton, c'était Étienne Bastide. Mais moi, il était venu à la partie de Radio Provisoire, qui là, s'est décédé depuis 2023, mais qui a participé, bien sûr, à cette émission-là, qui était commentateur. Samy Josua, qui lui était un bon, militant, toujours vivant, toujours de ce monde, hein, qui était militant de LCR, qui était aussi membre de l'organisation commissaire de travail et qui avait participé à mai 68 à Marseille avec Jacques Sansin. Au téléphone, Alain Crévin, qui est décédé aussi depuis 2022, et une intervention d'Étienne Bastide et Alain Crévin concernant l'avant-garde. Voilà. Donc, c'est un résumé de mai 68, les explications de Samy Josua, de le contexte. Donc, je rappelle, c'est une émission qui a été réalisée en 1983 dans le contexte de l'époque, hein, pour fêter les 15 ans de mai 68. Donc, on va écouter cette émission-là, qui va durer une vingtaine de minutes. Voilà, galère.
Eh bien, vous êtes donc sur Radio Provisoire, 100 MHz, téléphone de Radio Provisoire 90 97 00. Eh bien, aujourd'hui, on va commencer à vous parler de mai 68. Alors d'abord, avant de commencer cette émission, il faut rappeler quand même un peu le contexte international de mai 68. Parce que mai 68, on a souvent tendance à croire en France que c'était une affaire française, hein, qui a bouleversé surtout la France. En réalité, époque de mai 68, disons, des années, de la fin des années 60, hein, c'est une période où éclatait le carcan existant depuis Yalta, le partage du monde tel qu'il existait, et où dans les deux blocs, le bloc soviétique et le bloc occidental, et dans le tiers-monde, éclataient des luttes, hein, luttes de libération nationale, par exemple en 68, c'est l'offensive du Tet au Vietnam, lutte démarrant dans les pays d'Afrique, comme en Angola, au Mozambique, hein. Printemps 68, c'est le printemps de Prague, auquel les soviétiques mettront fin en août 68 par l'invasion de la Tchécoslovaquie. 68, c'est aussi les étudiants japonais qui s'affrontent avec les forces de l'ordre au Japon, étudiants japonais organisés par la Zengakuren, où ceux qui se rappellent de mai 68 se rappellent l'organisation démoniaque des étudiants japonais, mettant les flics en déroute lors d'affrontements pour empêcher les bateaux américains de débarquer au Japon. Mai 68, c'est aussi le mouvement anti-guerre aux USA, où de puissantes manifestations exigent l'arrêt de la guerre du Vietnam. Période là, c'est pas que mai, c'est aussi des mouvements dans tous les pays d'Europe, en particulier c'est en avril 68 que Rudi Dutschk, dirigeant du SDS, hein, organisation d'étudiants allemands, sera abattu d'une balle dans la tête, il n'en mourra pas. Il en mourra simplement, je crois, 12 ou 13 ans plus tard, des suites de ses blessures. Hein. Mais à l'époque, ça fera une grande émotion dans toute l'Europe. Donc, mai 68, c'est ce contexte international, un contexte où, dans la plupart des capitales du monde, on chantait l'international, un contexte de lutte, un contexte de montée des affrontements. En France même, mai 68 vient après une longue maturation. On se rappelle que c'est juste 10 ans plus tôt, c'est-à-dire en mai 58, qu'en Algérie, des barricades à Alger vont mettre De Gaulle au pouvoir pour garder l'Algérie française. Et s'en suivra, enfin, continuera plus exactement, puisque la guerre avec le peuple algérien avait déjà commencé depuis déjà 4 ans, et continuera cette guerre jusqu'à ce que, devant son échec, l'impérialisme français soit obligé de se retirer d'Algérie. Pendant cette guerre, commenceront à mûrir de nombreux éléments qui se retrouveront en mai 68, des éléments d'anti-impérialisme. Commenceront aussi à se mûrir des éléments de distanciation avec des partis politiques traditionnels. Par exemple, le parti communiste qui, à l'époque, refusait de soutenir le peuple algérien et vidait de ses rangs les militants et les des militants qui faisaient partie des réseaux de soutien au peuple algérien. C'est aussi dans cette époque qu'on voit se développer une crise qui se marque à l'université, mais qui en réalité est une crise de toute la jeunesse, qui se marque à l'université parce qu'il y a une inadéquation flagrante à l'époque entre l'organisation des études et les besoins de la bourgeoisie, du grand patronat, les besoins de l'État en général, du type de cadre, du type de cerveau dont il a besoin. L'université est plus adéquate exactement à l'ordre social. Il y a besoin de la modifier. Et ces modifications rentrent en contradiction avec une démocratisation croissante de l'université, c'est-à-dire avec le fait que l'université n'est plus réservée aux seuls enfants des classes dominantes, mais de plus en plus de jeunes issus de milieux populaires ou de milieux petits bourgeois sont à l'université et résistent à cette réforme de l'université. Effectivement, une organisation comme l'UNEF, qui était très apolitique lorsqu'elle s'est constituée, qui était même relativement apolitique après la guerre, s'est politisée pendant la guerre d'Algérie et devenait une organisation très politique dans ces années-là. Et une organisation de masse et de résistance à refonte de l'université. Cette crise de la jeunesse, c'est aussi une crise des valeurs. Une crise des valeurs puisque l'ordre social, l'État, n'a plus grande valeur à proposer à sa jeunesse. Après les défaites successives de l'impérialisme, après que la grande bourgeoisie a fait lors de la dernière guerre, en particulier collaboration avec les nazis, eh bien un grand nombre de valeurs qui étaient portées par la droite traditionnelle sont largement discréditées et il y a toute une jeunesse qui, dans un monde en crise, est en recherche en France. Et ça sera la conjonction de ces divers événements qui, à propos d'événements qu'on a alors là abondamment cités dans les journaux, à la radio, à la télévision, entrant en conjonction avec ces événements qui ont été les détonateurs, comme on dit, c'est-à-dire la contestation de Nanterre, les bagarres avec les organisations d'extrême droite, avec les fascistes, l'intervention des flics à la Sorbonne, toute une série d'événements qui vont provoquer l'étincelle de colère qui va se répandre dans tout le milieu étudiant, mais on ne peut pas comprendre que cette étincelle se soit répandue avec tant de force, que ces étudiants se soient exprimés et exprimés avec tant de virulence leur volonté de changement de société si on ne voit pas tout le terreau, tout le terrain propice à la propagation de la contestation qui existait dès lors. Et effectivement, après les quelques éléments qui vont détonner en mai 68, le mouvement va se répandre dans toutes les facultés de France. L'UNEF, qui est d'ailleurs largement débordée par ce mouvement qu'elle suit mais qu'elle ne comprend pas nécessairement en tant qu'organisation, va répercuter les mots d'ordre de grève, les appels au mouvement dans toutes les villes, et peu à peu l'université entière sera en grève. Et après l'université, ce sera les usines qui vont partir en grève. La CGT, voyant les ouvriers partir en grève, suivra les mots d'ordre et les accompagnera, les mots d'ordre de grève, et culminera sur l'appel à la grève générale le 13 mai jusqu'à la fin mai, où le 29 mai il y avait en France 9 millions de grévistes. C'est donc de ce mouvement et de toutes ces implications que nous allons essayer d'analyser ce soir. Il y a autour de la table un certain nombre de gens qui sont là pour en débattre, des gens qui ont animé le mouvement de mai 68, qui y ont participé, et puis aussi des gens qui sont nés après ou qui étaient beaucoup trop jeunes en mai 68. C'est un peu la confrontation de ces points de vue que nous aurons ce soir. On va commencer le débat. Il y a Samy qui est là. Peut-être tu peux, Samy, je crois que tu te rappelles un peu la chronologie des événements de mai 68.
Peut-être avant d'en arriver à la chronologie, je voudrais faire quelques remarques sur ton introduction. Parce que, bien sûr, tout ce que tu as dit est absolument vrai, sans aucun problème. Mais ça fait quand même bizarre de présenter les choses comme étant absolument mécaniques en disant ça s'est passé comme ça, l'environnement était de telle manière, donc il s'est passé ça. Parce que il faut se rappeler quand même d'une chose, c'est que à l'époque, juste avant l'éclatement de mai 68, du mois de mai, mai-juin 68, le climat n'était pas du tout celui que tu indiques en France. Ceci simplement pour rassurer les gens qui considèrent que le climat étant mauvais dans les jours qui nous entourent, il en sera toujours ainsi. La France est un pays tout à fait spécial, c'est toujours beaucoup plus facile de refaire ça, et après on comprend ce qui s'est passé. Mais à cette époque-là, c'était pas du tout présenté de cette manière-là. Et en particulier, une semaine avant le début des événements de mai 68, c'est-à-dire le 3 mai, pour le début officiel, disons marqué par tout le monde, des événements de mai 68, dans le plus grand journal de la bourgeoisie française, c'est-à-dire Le Monde, le plus réputé, il y avait un éditorial d'un des éditorialistes les plus réputés du monde, qui s'appelait, puisqu'il est mort depuis, Pierre-Vincent Ponté, dont le titre était « La France s'ennuie ». C'est-à-dire autrement dit, vraiment, et dans tout cet article, ça dégoulinait de remarques amères sur le fait que vraiment en France, il n'y avait rien à attendre. que la jeunesse était absolument passive, que dans les universités, les gens se battaient, comme il le présentait lui, les uns pour le Sud-Vietnam, autrement dit pour les Américains, les autres pour le Nord-Vietnam, autrement dit pour le peuple vietnamien. Bon, ça s'affrontait par-ci par-là, quelques orions étaient échangés, mais sans plus. Et que ceci, d'ailleurs, en bon démocrate, il imputait cette situation au gaullisme, en disant que le gaullisme avait anesthésié à un point tel le peuple français, qu'il ne se passait rien, et il regrettait profondément cette situation. C'était donc une semaine avant ce qui se passait. Ce qui fait que, dans la manière dont tu le présentes, on avait vraiment l'impression que l'Europe était à feu et à sang à ce moment-là. C'était vrai, enfin, à feu et à sang, faut pas exagérer, disons qu'elle était en ébullition. C'était vrai, mais c'était difficile quand même à remarquer à ce moment-là. Et dans une ville comme Marseille, par exemple, quand les mouvements comparables à ceux qui allaient initier le mouvement à Paris réunissaient 50-60 personnes dans une manifestation de soutien au peuple vietnamien, ils étaient ravis, ils considéraient que vraiment le printemps était là et que ça présageait très bien de l'avenir. Ils espéraient que l'année d'après, il serait au moins peut-être 80, voire peut-être 90. C'était enfin en gros l'atmosphère qui pouvait régner à ce moment-là. Donc je crois qu'il faut modeler un peu ça, enfin moduler un peu ce que tu indiques. La deuxième chose, qui peut-être fera l'objet d'un débat, ça je sais pas, mais qui est quand même un point de mystère, c'est pourquoi ça a pris cette forme-là en France. Parce que c'est incontestable que s'il n'y avait pas eu les événements de mai 68 tels qu'on les a connus en France, il y aurait quand même eu mai 68. C'était inscrit dans la réalité, comme tu l'as indiqué. Et donc il y aurait eu de toute façon des mouvements, parce que c'était un mouvement européen, tu as cité un certain nombre de pays, il y en a d'autres. Bon, il y a l'Italie surtout, qui à partir de 1969 va subir une radicalisation considérable. Il y a l'Espagne, dans laquelle le franquisme commencera à branler sur ses bases à partir de ce moment-là. Donc vraiment, c'est toute l'Europe qui est touchée par ce genre de mouvement. Donc il n'y avait aucune chance que la France y échappe, c'était absolument évident. Mais en France, ça a pris un aspect non seulement conflictuel, mais explosif. C'est-à-dire, bon, d'un coup, la France est embrasée. Et je crois qu'il y a là, qu'il y a cette question-là, enfin moi je vais m'arrêter là, mais simplement donner quelques pistes pour qu'on puisse réfléchir. Il y a deux genres de, deux types d'explications à ce phénomène. Le premier, c'est les structures politiques très particulières qui régnaient en France à ce moment-là, et qui règnent encore d'ailleurs, puisque la victoire de Mitterrand n'a absolument pas changé la constitution de 1958, qui régit encore les institutions, et qui concentre, c'est un cas exceptionnel dans toute l'Europe, enfin sauf le franquisme bien sûr, mais depuis ça a changé même là-bas, qui concentre le pouvoir à un point tel entre les mains de l'exécutif qu'il n'y a quasiment plus aucun intermédiaire entre les revendications qui peuvent surgir ici et là et le pouvoir central. C'est encore le cas aujourd'hui. Pour la plupart de ces grèves qui sont des grèves minoritaires, qui sont des grèves corporatives, on voit qu'elle n'a pas d'autre moyen, même pas d'autre moyen que de se manifester d'être qu'elle se manifeste là. Et c'était la même situation en 58, pas seulement en 68, pas seulement pour les étudiants, mais pour l'ensemble des personnes. Personne ne pouvait arriver à se manifester, à se faire entendre. Et puis il y a une deuxième explication, peut-être plus lointaine, qui tient à la structure de la société française, qui est une société qui est clivée en deux politiquement, au moins, bon, et socialement, contrairement à ce que tous les analystes ont toujours pu faire, et même à 68 encore, puisque c'est ce qu'indiquait Vincent Ponté, et qui se manifeste très très régulièrement par ce genre d'explosions, bon, qui ne vont pas jusqu'à la Révolution, mais par des explosions brutales, peu prévisibles, et qui sont une caractéristique de la France. Et d'ailleurs, je vais conclure simplement en citant mes sources, puisque c'est Raymond Barre qui, il n'y a pas longtemps, disait, il n'y a pas longtemps, il y a même quelques jours, enfin, indiqué qu'il était très craintif, parce que, disait-il, la France est un pays fantasque. Alors, dans son esprit à lui, c'est, on ne peut vraiment pas savoir ce que les travailleurs français vont faire, enfin, ce que la jeunesse française va faire du jour au lendemain. Et je crois que ce n'est pas complètement faux, non pas que je crois qu'il va y avoir un mai 83 du bon côté, contrairement à ce que disent les autres, enfin, du seul côté possible, c'est-à-dire à gauche. Mais, par ailleurs, je crois que c'est un élément qui est réel. Il y a eu en mai 68 un embrasement rapide, malgré tout, en quelques jours, enfin, même parfois quelques heures, qui s'est emparé de la société et qui donne cette caractéristique très particulière en mai 68 de basculement régulier, d'heure en heure, de jour en jour, de centaines de milliers, de millions de personnes qui basculaient du côté de la grève, alors que, très franchement, je crois que tous ceux qui ont vécu cette période-là, quelques jours auparavant, c'était à proprement parler inimaginable. Enfin, personne ne pouvait même le supposer deux secondes.
Alors, on a Alain Crivine au téléphone.
Alain, je crois que tu étais... là, je pense que tu... Bon, tu nous appelles de Paris, tu peux donc pas entendre notre émission. Nous faisons une émission sur mai 68. Et nous voulions te poser quelques questions sur, d'abord, toi un peu, comment tu as vu mai 68. En plus, tu es porte-parole d'une organisation qui est la Ligue communiste révolutionnaire. À l'époque, j'étais responsable de la jeunesse communiste révolutionnaire. Oui. Je crois que c'est une organisation qui a été, dès le départ, dans le mouvement de mai. Oui. Peut-être tu pourrais nous rappeler un peu ce qu'ont été ces événements pour toi, pour ton organisation, à l'époque, en particulier sur Paris.
Pour ceux qui l'ont vécu, c'était effectivement, mais je crois que tout le monde le dit maintenant, c'est un poncif. Mais c'était le plus grand mouvement populaire qu'on ait jamais connu en France, qui était même plus important qu'en 1936. Bien, je crois que l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de ne retenir que le mouvement étudiant et la grande grève générale des étudiants, parce que, en dernière analyse, ce qui, à mon avis, a été le plus important, et qui était d'ailleurs non prévu par la quasi-totalité des grandes organisations ouvrières traditionnelles, c'est la possibilité d'une grève générale ouvrière qui a touché la quasi-totalité des entreprises en France et qui a fait qu'il y a eu, je crois, plus de 10 millions, c'est à peu près le chiffre, plus de 10 millions de grévistes occupant leurs usines. Et en ce sens, par rapport, disons, à tous ceux qui, dès cette époque, expliquaient que ce type de mobilisation n'était plus possible dans les pays capitalistes avancés et que, disons, c'était réservé pour les pays en voie de développement ou les pays coloniaux, je crois qu'on a eu là un exemple extrêmement enrichissant pour l'avenir. Ce qu'on peut retenir, c'est ça avant tout, c'est-à-dire l'existence d'un tel mouvement et ensuite, sans jouer aux vieux combattants, pour ceux qui l'ont vécu, bon, tout ce que peut apporter un mouvement de masse, la richesse d'un mouvement de masse quand des millions de gens se retrouvent ensemble dans les manifestations, dans la rue, dans les débats politiques, arrivent à se parler, ce qui n'était jamais le cas, ce qui n'est jamais le cas en règle générale, c'est-à-dire, disons, tous les aspects d'un immense mouvement de masse.
Ce soir, il y avait sur FR3 un débat, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de suivre.
Non, je n'ai pas pu le voir.
Au cours duquel il y avait Cohn-Bendit et Guy Armier qui faisaient des passes d'armes. Et entre autres, l'un affirmait que le mouvement, c'était le mouvement étudiant, c'est-à-dire Cohn-Bendit, et que le mouvement qui avait été le détonateur par rapport au mouvement ouvrier. Et Guy Armier disait un peu ce que tu disais, que fondamentalement, c'était le mouvement ouvrier. Et il expliquait que c'était le mouvement ouvrier en France, parce que en France, il y a un parti communiste fort, par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe où il y a pourtant eu un mouvement, il n'y a pas eu une telle grève, parce qu'il n'y a pas un parti comme le parti communiste fort qui a déclenché la grève et qui a permis à Cassourière de rentrer en lutte. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Mais je pense que Guy Armier est toujours fidèle à lui-même dans le mensonge historique. On pourrait lui citer l'exemple de l'Italie où il y a eu aussi de très grandes grèves étudiantes, mais sans conjonction ou sans convergence avec la classe ouvrière. Et pourtant, il y a un PC italien très fort en Italie. Moi, je crois qu'effectivement, c'est les étudiants qui ont été le détonateur. C'est une formule maintenant classique. Qui ont été le détonateur, qui ont servi d'exemple, pas tellement au niveau de leurs revendications, que souvent les travailleurs ne connaissaient pas. Et d'ailleurs, les revendications étaient assez confuses. Elles ont très vite débordé le cadre de l'université pour aboutir à une remise en cause, si on veut, même confuse, mais de la société capitaliste sous tous ses aspects. Bon, si la classe ouvrière a embrayé, derrière le mouvement étudiant, au départ, c'est parce qu'il y avait une accumulation de mécontentement dans les dernières années du gaullisme qui, justement, n'arrivait pas à s'exprimer à travers la politique des partis de gauche, et notamment à travers la politique du PC et à travers la politique de la CGT, qui, depuis des années, trimballait les travailleurs en journée d'action totalement inefficace, en campagne de pétition. Charlot des sous, c'était le grand mot d'ordre, des petites manifs traînes savates que la CGT organisait de façon éparpillée les mois qui ont précédé 68, juste avant l'explosion étudiante, parce que ça, on l'oublie, il y a eu une série d'explosions ouvrières que le PC n'a absolument pas contrôlées, notamment dans les villes de Caen, les ouvriers de la Savienne, à Redon, en Bretagne, où il y a eu des explosions extrêmement violentes, des combats très durs avec les CRS, qui étaient prémonitoires de ce qui allait se passer par la suite dans la classe ouvrière. Alors, vu, disons, cette espèce de blocage total qui est de la part du PC et de la CGT, en termes d'expression de ce mécontentement, si la classe ouvrière s'est engouffrée dans le mouvement étudiant, je répète, c'est pas au niveau de ses revendications, c'est parce qu'elle a vu un mouvement étudiant qui se battait massivement, qui était uni, qui était passé à une action de type nouveau, si l'on veut, et ils se sont reconnus dans cette combativité, surtout quand ils ont vu que le gouvernement reculait au début devant les revendications étudiantes. Et le deuxième mensonge de Guy Armier, c'est que la direction du Parti communiste et de la CGT, mais ça c'est maintenant connu, ont absolument tout fait depuis le début pour essayer de casser le mouvement, se sont trouvés complètement débordés. Il faut relire les numéros du journal Humanité pendant la grande grève générale, où c'était une dénonciation systématique des étudiants, des gauchistes, de l'anarchiste allemand Cohn-Bendit, et où les militants du PC, en tout cas certains d'entre eux, ramaient comme des bêtes pour essayer d'arrêter le mouvement.
C'était
exactement l'inverse qui s'est passé.
Dans les facs, c'était l'ensemble des militants communistes qui ramaient comme des bêtes.
Dans les facs, oui. Dans les entreprises, c'était plus différencié.
N'empêche que malgré tout, dans le mouvement, lorsque tu dis détonateur, c'est vrai, mais l'impression que ça peut donner, il y a quand même une certaine réalité là-dessous, même si les travailleurs sont partis en lutte avec, en portant certains espoirs qui avaient été aussi portés par les étudiants, la matérialisation de leur mouvement est restée autour de leurs revendications, et quand un certain nombre de revendications ont été satisfaites, le PC et la CGT sont arrivés à faire entrer les travailleurs dans les usines.
Et je ne crois pas que ce soit aussi simple, si tu veux, parce que d'abord, je crois que rappeler l'aspiration des travailleurs à aller au-delà de simples revendications immédiates, même si ça aboutit à ça concrètement, avec les accords de Grenelle. Mais je crois que les aspirations allaient bien au-delà, y compris les mots d'ordre, souvent des manifestants et des travailleurs dans la rue remettaient en cause le pouvoir. On entendait les mots d'ordre et c'était pas seulement l'extrême gauche, le pouvoir aux travailleurs, etc. Bien, ce que je crois surtout, c'est que au moment où vraiment le problème du pouvoir s'est posé, c'est-à-dire quand il y a eu la paralysie totale du pays, y compris quand il y a eu cette espèce de déstabilisation et d'impuissance pendant quelques jours seulement de la part des hautes autorités, du gouvernement, quand De Gaulle est parti, etc. C'est-à-dire quand le problème du pouvoir s'est posé, qu'est-ce qui s'est passé? Un phénomène, je crois, qui était prévisible, c'est qu'à ce moment-là, les travailleurs ne se sont pas retournés vers les dirigeants étudiants qui avaient obtenu leur galon en termes de capacité à organiser des manifestations, mais lesquels dirigeants étudiants n'avaient pas la confiance des travailleurs lorsque le problème du pouvoir était posé, ce qui est bien normal. Il n'y a pas un travailleur qui envisageait de mettre Sauvageot, Gessmar ou Cohn-Bendit au gouvernement. Donc, quand ce problème a été posé, les travailleurs se sont tournés vers leur parti, le PC, le PS, les syndicats. Je schématise, mais c'était en gros, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le pouvoir ou pas? Bien, le PC ayant clairement accepté le principe des élections, lorsque De Gaulle est revenu et pour faire passer le mouvement extra-parlementaire dans les urnes, a annoncé les élections. Pour la deuxième fois, la première fois, ça a été un grand éclat de rire dans les manifestations de rue sur le thème des élections, on s'en fout, elles n'ont jamais eu lieu. La deuxième proposition d'élection, lorsque le mouvement a commencé à décliner, le PC a pris la balle au bond, c'était la façon d'enterrer le mouvement, et les travailleurs n'avaient aucune direction de recharge alternative au PC et aux directions syndicales. Et voyant que leurs dirigeants n'étaient pas du tout joués le jeu des élections et n'étaient pas prêts à prendre le pouvoir, la grève, petit à petit, effectivement, a commencé à décliner, mais ça n'a pas été facile. Au début, même les accords de Grenelle, les premiers, lorsque l'accord a été signé, c'est maintenant un phénomène connu, Georges Séguy dit l'inverse dans l'Humanité aujourd'hui, mais c'est absurde. Georges Séguy a été sifflé en Assemblée Générale aux usines Renault. Alors il explique que c'est le gouvernement qui a été sifflé, mais pas lui, ce qui est une grande rigolade. Mais les travailleurs n'avaient pas accepté les accords de Grenelle au départ. Maintenant, la grève s'est effilochée lorsqu'il n'y avait plus aucune perspective. Je crois que c'est une leçon à tirer d'ailleurs. C'est autant on peut voir qu'un mouvement de masse, moi je crois pour l'avenir, et j'espère rapide, autant il peut y avoir un mouvement de masse plus ou moins spontané, ce qui a été le cas, autant ensuite, lorsqu'il le problème des perspectives se pose, là on voit le rôle des organisations politiques, bon, négatives quand elles trahissent le mouvement, et ce qui manquait c'est justement des organisations politiques ayant la confiance des travailleurs dans le mouvement et capable, non pas d'imposer, mais de proposer les moyens d'aller au-delà. Dans ce sens, ça a été un échec politique.
Juste après mai 68, il y a Ben Saïd qui a écrit un livre sur mai 68 dont je ne me rappelle plus le titre.
Une répétition générale.
C'est ça. Dans lequel il expliquait en gros que la révolution était possible en mai 68, mais que c'est les organisations politiques qui avaient bloqué le mouvement. Tu sembles dire la même chose. Vous maintenez cette analyse en tant qu'organisation, qu'en mai 68, la révolution était possible, et que c'est simplement parce que le PC n'a pas voulu remplir ses tâches à l'époque, qu'elle n'a pas eu lieu.
Non, c'est vrai en dernière analyse. Maintenant, c'est évident que dit comme ça, ça peut sembler un peu rudimentaire, parce qu'il y a un lien qui existe entre ce qu'était le PC dans la classe ouvrière des années auparavant. Il n'y a pas une classe ouvrière neutre comme ça. Il y a une classe ouvrière qui est travaillée par la propagande, l'éducation, véhiculée par ses partis, par ses syndicats.
Et peut-être aussi que la classe ouvrière, elle forme ses partis et ses syndicats.
Oui,
il y a quand même un lien dialectique entre les deux, non?
Oui, mais l'idée qu'elle mérite les partis qu'elle a, je crois que c'est pas aussi simple, parce qu'au départ, on ne va pas faire l'histoire, mais les travailleurs sont donnés des partis et des syndicats, et ensuite il y a eu tous les phénomènes de bureaucratisation qui ne sont pas la volonté même des travailleurs, qui sont plutôt le résultat de la place des travailleurs par rapport au pouvoir politique, au pouvoir syndical, au pouvoir tout court dans la société capitaliste. Alors là, effectivement, il y a interaction qui a donné lieu à des bureaucraties, à des organisations qui ne sont pas démocratiques. Mais donc en ce sens, si tu veux, nous en 68, c'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'on a tenu le coup et qu'on a continué à faire de la politique à la différence d'autres, y compris à la différence des principaux dirigeants de 68 qui ont disparu de la scène politique aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'on n'avait pas trop d'illusions. On savait effectivement que, vu ce qu'était la classe ouvrière, la faiblesse des organisations ou des mouvements d'extrême gauche, disons, la faiblesse de l'auto-organisation des travailleurs. Il y avait très peu de conseils d'ouvriers, de conseils de paysans, de structures, comme on dit dans notre jargon, d'auto-organisation. L'âge démocratique, il n'y avait pas de comité de grève. C'était généralement simplement des intersyndicales qui se baptisaient comité de grève. C'est-à-dire que les travailleurs, ça a été la grande faiblesse de 68, à la différence un peu de ce qui s'est passé en Italie en 69, ne se sont pas donné leur propre structure unitaire pour mener la grève générale et voir aller au-delà et remettre en marche les usines. Donc en fonction de cela, nous, on ne croyait absolument pas que mai 68 pouvait déboucher sur le socialisme. Les conditions n'étaient pas réunies à l'époque.
Dans ce que tu as dit, dans l'analyse que tu as faite, il y a quand même quelque chose qui m'a gêné. On voit des travailleurs, des étudiants qui seraient comme les chiens, qui cherchent un bon maître. Et malheureusement, il n'y avait pas là le guide éclairé du prolétariat pour les guider. Non, alors il y a quand même une certaine... Enfin, moi, ça m'angoisse.
Mais c'est pas que ça m'angoisse. Et moi, je ne suis pas pour la notion de guide éclairé et de choses comme ça. Je crois que de toute manière, c'est tout un débat. La notion d'avant-garde, je crois que c'est un type qui se mérite, qui n'est jamais gagné d'avance et que tu peux perdre au cours des luttes. C'est pas le problème. Ce que je crois, c'est les deux choses qui manquaient réellement, et on l'a vu, parce que ceux qui nous expliquent que le socialisme, ça viendra uniquement par un mouvement spontané des masses, ben je crois qu'on n'aura jamais un mouvement aussi large que celui qu'on a eu en 68. Et pourtant, il a échoué. Voilà, il faut essayer de voir pourquoi il a échoué, si on ne veut pas recommencer les mêmes choses. Et je répète, à mon avis, les deux choses fondamentales qui ont manqué, c'est premièrement le fait que ce mouvement ne s'est pas auto-organisé, y compris spontanément. Il n'y a pas eu de conseil, de comité de grève élu, y compris, je dois dire, certains dirigeants étudiants. Nous, c'est le débat qu'on avait avec Cohn-Bendit à l'époque. Les gros débats qu'on avait avec lui dans le mouvement étudiant, c'est que nous, on poussait les étudiants à s'organiser en comité, à élire des délégués, parce que ça évitait la manipulation. Et il peut y avoir des dirigeants qui se réclament de la démocratie totale, comme Cohn-Bendit, par exemple, mais qui étaient contre l'auto-organisation du mouvement étudiant, et ça donnait des choses, alors là, comme tu dis, totalement le guide éclairé, c'est-à-dire quand tu as 50 000 étudiants dans la rue qui ne savent pas où ils vont, et que tu as un seul type qui tient le micro, ce qui était le cas de Cohn-Bendit ou de Jesmar ou de Sauvageau, et qui leur disent on va à tel endroit, ben, la démocratie elle ne joue pas, tout le monde suit, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Donc nous on était justement pour que déjà le mouvement étudiant, ce qui n'a pas été le cas, s'auto-organise avec des délégués élus, révocables, etc. Donc il manquait cette auto-organisation. C'est-à-dire l'organisation des grévistes eux-mêmes, étudiants et ouvriers. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'il manquait, il n'y avait aucun projet politique, aucune stratégie politique. Les gens en avaient marre, c'est un sentiment de ras-le-bol comme celui qu'on a connu en 80 pour Villers Giscard. Un sentiment de ras-le-bol contre la droite, et bien au-delà d'ailleurs, c'était pas simplement un mouvement sur des revendications immédiates, c'était une remise en cause de tous les aspects répressifs, oppressifs de la société. Bon, après, il y a eu le mouvement des femmes, le mouvement des immigrés, ça c'est tout l'acquis de 68. Mais je veux dire par là qu'il manquait au moins des organisations politiques, non pas pour imposer leurs solutions, mais pour faire des propositions concrètes et des organisations crédibles, pour faire des propositions concrètes sur le thème quelles sont les prochaines étapes, comment bon, hurler contre la droite et la bourgeoisie, ça on peut le faire à des millions. On s'est aperçu qu'il ne suffit pas d'être des millions, qu'il ne suffit même pas d'une grève générale pour renverser la bourgeoisie, parce qu'on l'a eu la grève générale, on a eu des millions de gens mobilisés, on a toujours eu la droite après 68. Donc il y a quand même un problème, la réelle. Je répète, il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit d'avoir des organisations politiques reconnues par ce qu'elles font, qui ne s'auto-proclament pas avant-garde, mais au moins capables de proposer seulement, de mettre en discussion, disons, un projet politique, une stratégie pour aller au-delà. Parce que je crois que le renversement de la bourgeoisie, ça ne se fait pas uniquement avec des manifestations.
Et je crois qu'il n'y a plus de questions là autour de la table.
Il y aurait que des commentaires.
Il y aurait des commentaires, il y aura un débat, mais on l'aura, je pense, sans toi, parce que ça ferait cher. Je pense qu'on a donné chacun un peu quelques éléments qui sont un peu de débat, y compris avec ce que tu dis. On te remercie d'avoir répondu à nos questions. Je te rappelle que tu étais en direct avec Radio Provisoire et je rappelle à nos auditeurs que nous avions Alain Crivine en direct sur l'antenne. On te remercie. Salut.
Allez, au revoir.
Alors, bien sûr, je rappelle aux auditeurs que c'est une bande enregistrée de Radio Proviseur en 1983.
Oui, ça commence à dater.
Mars 83. Alors, bien sûr, ces analyses de mai 68 faites par des militants trotskistes et maoïstes, avec leur version de l'interprétation. Comme dit, il y aura les commentaires après, mais là, on n'a pas le temps de faire les commentaires sur mai 68.
C'est sûr.
Ça, je te dirai. Alors, on va terminer avec une chanson de Dominique Grange. Alors, je vais expliquer qui c'est, Dominique Grange.
Militante maoïste.
Alors, il était militant de maoïste, je précise.
Parce qu'il était, oui, elle n'est plus.
Voilà. Enfin. Daniel 1940. Savoir qu'à l'âge de 18 ans, elle était influencée par son prof de philosophie, qu'elle s'était sensibilisée à la politique sur la question algérienne, donc pendant la guerre d'Algérie, comme Jacques Sonsen d'ailleurs, qui s'était aussi sensibilisé et politisé à ce moment-là, et comme Alain Crivine aussi sur la question algérienne, partisan de l'Algérie indépendante, après, je précise. Bon, hostile, bien sûr, au coup d'État gaulliste, qui après, dans les années 1960, a commencé à vouloir faire une carrière de chanteuse yéyé,
oui,
au départ, tout ça. Et qui a découvert mai 68 sur le tas, qui est allé à la Sorbonne, occupé par les étudiants, qui s'est engagé plutôt dans le courant maoïste, dans le hasard des rencontres, qui avait aussi fait des contre-festivals à Avignon, qui a chanté aussi dans les usines, qui a fait l'expérience des établis, vous savez, ces étudiants qui rentraient dans les usines, où il avait travaillé à Nice pour essayer de politiser les mouvements.
Ça n'a pas trop marché, d'ailleurs.
Et qui a rentré aussi dans la clandestinité, parce que dans la gauche prolétarienne, les maos, voilà, qui étaient à deux doigts de rentrer dans la lutte armée après la mort, l'assassinat de Pierre Auvergne. dernier, qui, je rappelle, comme il était un maoïste, qui était tué par Tramino, un vigile de Renault.
C'est ça.
D'ailleurs, Tramino sera plus tard tué par un commando quelques années plus tard. Mm-hmm. Et ben, Dominique Grange, il faut savoir que c'est l'époux de Jacques Tardy,
dessinateur.
Oui, dessinateur, plutôt tendance libertaire. Depuis, Dominique Grange s'est plutôt orienté vers les mouvements libertaires, hein, depuis. Alors, préciser que, on parle de Dominique Grange, c'est la fois parce qu'elle a chanté, elle a fait des chansons sur mes sentiers, comme écouter une de ses chansons, tout le monde est concerné, mais.
Chacun de vous est concerné.
Voilà. Mais il faut préciser aussi, c'est que Jacques Tardy a publié, enfin, avec Dominique Grange, une sorte de roman graphique autobiographique, qui s'appelle Élise et les nouveaux partisans, qui raconte la vie de Dominique Grange. Et pour ceux qui s'intéressent, bien sûr, à la période, des mouvements de la gauche révolutionnaire entre les années 60 et les années 75. Hein. Il pose aussi les problèmes un peu de cette période-là, cette mouvance-là, de période. Il faut savoir aussi que Dominique Grange, pour ne pas avoir d'enfants, a adopté deux enfants chiliens. Donc, je conseille de lire cette BD, L'Élise et les nouveaux partisans, qui a été publiée en 2021, qui est très intéressante, du moins beaucoup d'informations sur le contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas cette période-là, ça permet d'avoir un éclairage. Et on va écouter les nouveaux, pas les nouveaux partisans.
Chacun de vous est concerné.
Chacun de vous est concerné. Alors, c'est une version 2018. Hein. Avec un peu plus modernisé, qu'on va écouter.
Lottavano così come si gioca. I cuccioli del maggio era normale. Loro avevano il tempo anche per la galera. Ad aspettarli fuori rimaneva. La stessa rabbia, la stessa primavera. Même si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez fermé votre porte à notre nez, une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraqué sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si dans votre ville tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades, si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné.
C'était L'histoire continue et permanente, une émission animée par Eric Lebreux sur les ondes du Radio Galère 88.4 de la bande FM DAB+. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast sur le site de Radio Galère.